Tout d'abord, merci d'être à cette fête. Voilà, vous êtes toujours de plus en plus nombreux, année après année, ça bat record sur record. Bah, ça confirme quand même la vitalité de nos idées communistes révolutionnaires, et ça, c'est une bonne chose. Alors, on a des mois et des mois, des semaines, on a ce fameux gouvernement Barnier qui a été nommé, qui a été désigné, et sans surprise, on a devant nous maintenant un gouvernement qui se prépare à attaquer très lourdement, très gravement, l'ensemble de la population laborieuse. Et ça commence d'entrée de jeu avec ce budget qui est en préparation et qui va passer à l'Assemblée nationale et qui sera sans doute d'ailleurs voté. On va y revenir. Mais vous avez vu que pour nous faire les poches, ils invoquent maintenant cette dette monstrueuse, les caisses de l'État sont complètement vidées, ça on le savait. C'est 3200 milliards d'euros de déficit. Et maintenant, ils nous expliquent à longueur de BFM, de CNews et de tout ce que vous voulez comme médias, de politiciens qui se relaient, d'experts en tout genre, de ministres, que c'est à nous les travailleurs, qu'on soit en activité, qu'on soit chômeur, qu'on soit retraité, c'est à nous de payer d'une manière ou d'une autre pour rembourser cette dette dans laquelle on n'a aucune responsabilité. Je pense qu'on est ici tous convaincus, mais Macron, sur ses deux mandatures, a fait exploser cette dette. On s'en souvient, c'est en partie seulement à travers le Covid, mais c'est pas que. C'est ce fameux « quoi qu'il en coûte » qui a explosé cette dette, et c'est des centaines de milliards d'euros qui ont été déversés à fonds perdus, essentiellement dans les caisses du grand patronat, dans les caisses de cette bourgeoisie, des capitalistes qui se sont goinfrés, qui ont pillé l'argent public, l'argent des impôts. Et ils n'ont comme seule solution, puisqu'ils sont de toute façon au service de ces capitalistes, de trouver comme solution de nous faire les poches. Alors, il est pour eux pas question, en tout cas, de faire payer les riches, mais là où ils veulent, je ne sais pas, vous avez sans doute entendu parler, mais je vais énumérer quelques attaques, c'est notamment sur les retraités. Les retraités, il n'y a quand même pas si longtemps, tout le monde était d'accord sur les plateaux de télé que les pensions de retraite étaient quand même extrêmement faibles, que ça avait expliqué en partie le mouvement des Gilets jaunes, il n'y a pas si longtemps que ça, que les retraités avaient du mal à faire les fins de mois, etc., etc. Eh bien, bingo, ils ont gagné quand même le gros lot. Pour les retraités, la revalorisation de leurs pensions, ça va être retardé de plus de 6 mois. Et si c'est que 6 mois, on aura de la chance. Voilà. Et puis après, il y a toutes les attaques sur le service public, sur les travailleurs du service public, à peu près 100 000 emplois qui vont disparaître, 100 000 emplois de travailleurs qui sont destinés au service public. Et quand on écoute, il y a de quoi être en colère et de s'énerver, mais quand on écoute les émissions de télé ou à la radio, c'est mais de toute façon, ça va pas nous pénaliser, ça ne pénaliserait pas nous, le public, les travailleurs, les usagers, parce que le gouvernement va chercher à supprimer des emplois qui sont derrière le guichet. Vous savez, ces gens qui, normalement, d'après eux, ne font rien du tout, ne travaillent pas assez, sont tout le temps en maladie ou tout le temps en grève, etc., dont on ne voit pas, qu'on ne voit pas quand on est devant le guichet. Et donc, on peut supprimer ces emplois-là, on peut supprimer ces postes-là. Il n'empêche que d'une manière générale, de toute façon, en conclusion, c'est nous qui allons payer en termes de services publics. Ça veut dire que la situation dans les hôpitaux, elle va se dégrader. La situation à l'école publique, ça va se dégrader. La situation à la sécurité sociale, dans les transports publics, partout, qui concerne notre vie à nous, où on a besoin des services publics, ça va être de pire en pire. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un coup de rabot de 50 millions d'euros, par exemple, on l'a tous entendu, sur la poste. Alors la poste dans les zones rurales, où on diminue encore le service public, et donc pour les usagers, pour nous, qui avons besoin de la poste, on sera obligé de prendre la voiture pour faire encore plus de kilomètres. Bref, de tous les côtés, ils vont chercher à nous faire les poches et à nous faire payer cette dette. Du côté des riches, ça va être zéro. Ça va être zéro pointé. Ils ne seront même pas égratignés alors qu'ils se sont enrichis. J'ose même pas dire le terme, mais vraiment, ils se sont enrichis depuis qu'ils ont vu leur richesse, leur fortune exploser année après année. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a choqué quand j'ai entendu ça, c'est les ménages chez les riches. Donc on parle de ménages, c'est-à-dire un couple qui commenceront à être un peu plus taxés, ça sera un couple qui aura comme revenu 41 000 euros par mois. S'ils n'ont pas d'enfants. Si ce couple-là a un enfant, ils ne sont pas taxés. Voilà. Autant vous dire qu'il ne va pas y avoir grand monde qui va mettre la main à la poche. Ça va être l'euro symbolique. Hein. Ça va être l'équivalent de l'euro symbolique qu'ils vont donner. Et puis derrière, bah, c'est aussi 300 entreprises qui font du bénéfice et qui seraient taxées. Je parle au conditionnel parce que vous savez, avec eux, c'est toujours les annonces pour faire bonne figure. Et puis derrière, dans les faits, quand ça se transforme en décret et en réalité, on est très très loin de la réalité. Mais 300 entreprises qui font des bénéfices, ou des ultra-bénéfices, des super-profits, je ne sais plus comment ils appellent ça, ben ça fait quand même un certain nombre d'entreprises. Mais j'ouvre une petite parenthèse sur taxer les profits, parce que ça fait partie du débat public que la gauche met en avant, qu'il faudrait taxer les super-profits, les hyper-profits. Vous savez, pour les patrons, de toute façon, dès qu'on parle d'eux et qu'on parle de les taxer, ils sont contre. Ils ont raison. Ils défendent leurs intérêts. Ils défendent leur bichetec. Ils défendent leur peau dans cette affaire-là. Mais il serait possible de les taxer, les entreprises, les bénéfices, parce que les bourgeois savent très bien que s'ils seront taxés leurs profits, s'ils sont taxés leurs bénéfices, ils ont mille moyens de s'y retrouver par mille solutions que l'État leur offre à côté. Je vais donner un exemple, c'est dans une discussion, on en discutait, mais après la crise de 1929 aux États-Unis, il y avait Roosevelt, le président américain, qui avait imposé de taxer à hauteur de 90% les bénéfices des entreprises. Et c'était aux États-Unis. Pourquoi ils pouvaient se permettre ça? C'est parce que derrière, les bourgeois, ils savent comment récupérer leur mise. Ils ont mille moyens pour récupérer leur mise. Donc ça, c'est pas vraiment ça la solution. Mais je ferme la parenthèse sur taxer les impôts. Mais on est face à un gouvernement qui va réellement nous piller, qui va réellement nous faire les poches. Et derrière, il n'y a pas que ça. Il y a tout le cours réactionnaire de ce gouvernement, un bon coup de barre à droite avec un ministre de l'Intérieur, Retailleau, catholique intégriste, qui défend vraiment les idées du Rassemblement national dans la droite traditionnelle et qui va être là. Il aura comme mission pour essayer de détourner la colère des travailleurs ou le fait que il ne faut pas qu'on s'en prenne, il ne faut pas que les travailleurs s'en prennent aux vrais responsables, c'est les capitalistes, c'est les bourgeois, c'est les grands patrons. Et son job, ça va être de détourner l'attention avec des sorties plus réactionnaires les unes que les autres, en pointant du doigt, en gros, tout ce qui n'est pas français, c'est-à-dire les migrants, les étrangers, les travailleurs immigrés sans papier, les illégaux, etc., etc., en essayant de faire croire que c'est en s'attaquant à cette partie de la classe ouvrière qu'on pourra s'en sortir, qu'on remettra de l'ordre et que le pays ira soi-disant mieux. Bon, ça c'est une... excusez-moi du terme, mais c'est une véritable saloperie. Bien sûr que leur objectif là-dedans, à ces ministres et à ces politiciens, c'est de diviser le camp des travailleurs, c'est de diviser la classe ouvrière pour tenter de l'affaiblir. Et nous, notre boulot, j'y reviendrai après, mais notre travail militant, justement, c'est d'aller à contresens, à contre-courant de tout ce qui peut se déverser contre nos camarades immigrés. C'est qu'on forme une seule et même classe ouvrière. C'est nous qui faisons fonctionner toute la société et on doit être unis, solidaires, pour se bagarrer, justement, contre nos exploiteurs, contre la bourgeoisie et contre le grand patronat. Alors je disais, les riches ont vu leur fortune exploser. Ils ont vu leur fortune exploser alors que on est en crise économique, que l'économie va mal. Et cette richesse, elle a explosé parce qu'ils nous font une guerre. Ils nous mènent une guerre au monde du travail, au camp des travailleurs. Et en ce moment, on voit passer à la télé aussi un certain nombre, on entend parler d'un certain nombre de plans de licenciement, de fermeture d'usines, notamment dans l'automobile, mais pas que dans l'automobile. Oui, aujourd'hui, le patronat est à l'attaque. Il intensifie sa guerre, il intensifie ses attaques contre le monde du travail, parce que c'est la seule solution pour lui de maintenir ses profits, de maintenir ses privilèges, de maintenir ses bénéfices. Et pour ça, il faut qu'il nous mène une guerre sociale. Il nous mène une guerre sociale parce que les capitalistes, entre eux, se mènent une guerre à mort. J'ai l'habitude de prendre l'exemple de l'automobile, de Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, qui nous avait expliqué que lorsque le marché ne grandit pas, eh bien, il faut aller manger dans la gamelle des autres. Manger dans la gamelle des autres, dans sa bouche, dans son raisonnement, ça veut dire aller prendre des parts de marché, tailler des croupières à Toyota, à Renault, à Volkswagen, aux autres constructeurs automobiles. Et chaque constructeur automobile a la même politique, a la même logique, puisque le système capitaliste ne fonctionne que comme ça. Il fonctionne sur la loi du profit, il fonctionne sur la concurrence, et les capitalistes se mènent une guerre à mort parce que c'est ce système qui est organisé de cette manière-là. Et pour que Stellantis mène une guerre à mort à Toyota ou à Renault, il doit mener une guerre contre ses travailleurs. C'est-à-dire produire autant, voire plus de véhicules avec toujours moins d'ouvriers, en diminuant la masse salariale, en nous en travailler encore plus. Mais ça veut dire aussi en supprimant des emplois, en fermant des usines, que ce soit les équipementiers, que ce soit les fournisseurs ou les usines de donneurs d'ordre, comme dans la région, les camarades de Stellantis Douvrin en font les frais, mais pas que Stellantis Douvrin, tous les équipementiers, les fournisseurs qui travaillent dans l'automobile, aujourd'hui, se voient sacrifiés sur l'autel du profit et sur l'autel des dividendes. Et ce système, il marche comme ça, il ne peut marcher que de cette manière-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y aura pas d'autre solution que de le renverser. Le renverser parce que ce système, il nous amène des crises économiques, et pas que des crises économiques, mais de guerre économique en guerre économique, il nous amène en guerre tout court. En guerre tout court, vous avez eu, certains nombre d'entre vous, vous avez pu assister à des exposés, à des topos, à des débats sur la guerre aujourd'hui au Moyen-Orient. Mais elle a. Vous voyez comment marche le monde. Aujourd'hui, on a notre attention qui est focalisée sur le Liban. Israël est en train d'envahir le Liban après avoir bombardé Beyrouth. Et on se pose tous la question, il n'y a pas que nous, les experts, les médias se posent tous la question, quelle va être l'escalade, est-ce qu'il va y avoir une escalade entre Israël et l'Iran ? Parce que là, on change de grandeur, on change de nature. Mais pendant que notre attention, et c'est tout à fait normal, elle est focalisée sur le Liban et sur l'Iran, parce que c'est grave de danger, la guerre en Ukraine, elle continue. Et c'est toute une génération de jeunes travailleurs russes et de jeunes travailleurs ukrainiens qui sont en train de s'entretuer et de pourrir dans les tranchées là-bas en Ukraine. Et dans l'intérêt de qui ? Dans l'intérêt à la fois d'un côté des oligarques, des milliardaires, des oligarques russes, et de l'autre côté de l'impérialisme américain, des capitalistes américains essentiellement, aussi des capitalistes européens, mais essentiellement des capitalistes américains, parce que les capitalistes, la bourgeoisie américaine, les capitalistes américains, ils veulent accentuer leur influence économique sur cette partie de l'Europe. Et cette guerre, c'est pas la guerre contre le méchant Poutine et le gentil Biden, demain peut-être le gentil Trump ou Kamala Harris, ça sera la même chose. C'est pas que Poutine, il est méchant, il est gentil. Poutine est un dictateur et chacun défend les intérêts à la fois d'un côté des oligarques russes et de l'autre côté des capitalistes américains. Et du côté du camp occidental, je le dis parce qu'on l'oublie trop souvent, et de toute façon on ne l'entend jamais à la télé, dans le camp occidental, les capitalistes américains profitent de la guerre qu'ils mènent contre les oligarques russes sur la peau, avec la peau des Ukrainiens et qui des Russes, pour faire la guerre aux capitalistes allemands, aux capitalistes français, aux capitalistes européens, pour imposer leur marchandises, pour imposer leur influence, et et si ça déstabilise un tant soit peu l'économie européenne, et ben c'est bon pour les capitalistes américains. Et ça, c'est comme ça que marche le monde. C'est comme ça que l'impérialisme impose ses règles, sa dictature sur l'ensemble du monde. Alors aujourd'hui au Liban, au Moyen-Orient, ce qui est en train de se passer, c'est plus que dramatique. Déjà, c'était l'horreur avec Gaza. L'État israélien, Netanyahou, le gouvernement israélien, a transformé la bande de Gaza, qui était un camp de concentration à ciel ouvert. C'est devenu un immense cimetière. C'est des dévastations sans limite. C'est au niveau des morts, on ne sait même plus si c'est entre 40 000 et 100 000 morts. On sait même pas. Enfin, c'est une région qui est complètement dévastée. L'État d'Israël continue en plus à coloniser la Cisjordanie, dont on parle extrêmement peu. Et puis là, ils ont décidé de s'attaquer au Liban, d'envahir le Liban. Ils font tomber des bombes. Et puis c'est sans doute une escalade qui peut arriver avec l'Iran. Et là aussi, le gros malheur de ces populations de cette région-là, je ne parle pas que des Palestiniens, je parle des Jordaniens, je parle des Libanais, je parle des Israéliens, je parle des Irakiens, des Syriens, des Égyptiens, c'est qu'ils vivent sur une région qui est extrêmement riche et qui a du pétrole. C'est leur malheur. Et le malheur des populations, souvent, c'est de vivre sur un terrain où le sous-sol, il est riche de minerais, il est riche de profits pour les entreprises occidentale, pour les entreprises de pays impérialistes. Et on voit aucune solution dans la guerre du Moyen-Orient. On ne sait pas si on en voit une, en tout cas en Ukraine, mais c'est ce que nous offre aujourd'hui le capitalisme. Le capitalisme qui est en train de nous offrir, c'est une crise économique, aujourd'hui qui est subie énormément par les travailleurs, parce que j'évoquais l'automobile. Oui, c'est la crise économique aujourd'hui, mais c'est la crise économique pour les travailleurs. C'est nous qui nous ont licenciés, c'est nous qui trimons comme des dingues sur les chaînes de montage où on n'y arrive même plus à tenir les postes, où les jeunes intérimaires ils sont virés comme des malpropres et où ils ferment les usines et on se fait licencier. Pour les capitalistes de l'automobile, c'est une fortune qu'ils sont en train de se faire. Et il ne faut pas croire, j'ouvre une petite parenthèse, excusez-moi, il ne faut pas croire ce que dit la presse, par exemple, sur l'automobile, les camarades. Quand on lit la presse, je vais parler de Stellantis, par exemple. Quand on lit la presse, ils disent la descente aux enfers de Stellantis. Il y a le PDG de Renault qui dit on est en mode survie. Tavares, il reprend. Oui, on joue la survie du groupe. Mais quelle bande de menteurs. C'est pas la survie qui joue. Oui, c'est notre survie à nous, la survie des travailleurs. Parce que c'est nous qui payons les pots cassés. C'est nous qui vous ont licencié. Et on fabrique de l'or. C'est pas les voitures qu'on fabrique dans ces usines-là, à Toyota, à Renault et à Volkswagen ou à Audi. C'est des lingots d'or qu'on fabrique. Ils sont riches à milliards, les capitalistes de l'automobile. C'est des grandes familles bourgeoises qui ne savent même plus quoi faire de leur argent, de leur fortune, sauf à la claquer, à les claquer ces milliards dans le casino mondial, dans la spéculation. Il ne faut pas les croire quand ils disent qu'il y a la crise dans l'automobile. Non, il y a la crise pour les travailleurs. Eux, ils se portent extrêmement bien. Et là-dessus, ils mènent une campagne politique, une campagne médiatique politique pour dire, et c'est vrai que quand vous discutez autour de vous, dans votre famille, si vous discutez de l'automobile, ah ben ça va mal l'automobile. Oui, ça va mal pour nous. Mais pour eux, ça va très très bien pour l'instant. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est des aides de l'État, encore et encore, et ils veulent justifier l'injustifiable, c'est-à-dire les licenciements, les fermetures d'usines. Donc toute la propagande des patrons, et là je parle que de l'automobile, mais c'est vrai dans tous les secteurs, c'est des menteurs. Ils mentent comme des cochons. Oui, ça va très bien pour eux, ils sont des milliards et des milliards, ils n'ont jamais été aussi riches de leur histoire, et nous, on n'a jamais été aussi pauvres. On ne s'est jamais fait autant peut-être licencier, et donc là, là-dessus, il faut là, ça s'arrête. Alors, je ferme juste la parenthèse là-dessus, mais le capitalisme, il nous offre ça. Il ne peut nous offrir que des crises, des guerres, la misère, la pauvreté. Et eux, pour que eux, cette minorité, cette classe sociale, cette bourgeoisie, elle s'enrichisse. Alors vous allez me dire, elle est où la solution? Comment on peut s'en sortir de cette affaire-là? Eh bien, on peut s'en sortir, nous on en est convaincus, que le salut de l'humanité, le salut de l'ensemble de la population, il ne pourra s'en sortir que quand la classe ouvrière, elle aura repris le chemin du combat politique, du combat de classe, du combat social. Il n'y a que de cette manière-là qu'on pourra s'en sortir. Mais pas que. Pour ça, il faudra qu'il y ait un parti de travailleurs, un parti communiste révolutionnaire. Et là, je vais prendre le temps d'expliquer ce que c'est pour nous un parti communiste révolutionnaire, un parti de travailleurs. Parce que les camarades de travail autour de nous, ils nous disent, mais il y en a plein des partis. Il y a le parti communiste, il y a les LFI, il y a les Verts, il y a le parti socialiste, etc., etc. Il y en a plein des partis pour eux, qui se revendiquent, soi-disant, de la gauche et qui, du côté des travailleurs. Eh bien, les camarades, on les a vus à l'œuvre ces derniers mois, ces partis-là. Les crocs en jambes qui se sont faits, les coups de couteau dans le dos qui se sont faits. Ils n'ont pas arrêté de s'entretuer, se dégueuler les uns sur les autres pendant les européennes. Après, il y a eu la dissolution. Oula, danger! On a le feu aux fesses parce qu'on va perdre nos sièges à l'Assemblée nationale. C'est la vérité. Et donc, ils se sont mis d'accord. En 48 heures, ils ont trouvé le moyen de se mettre d'accord, alors qu'ils ne sont pas du tout d'accord entre eux. Et puis, dès qu'ils ont signé cet accord, après, ils se sont remis des couteaux dans le dos. C'était « Ah non, c'est moi qui sera Premier ministre, mais non, c'est moi ». On n'avait même pas commencé à voter, que déjà ils essayaient de se répartir les postes, parce qu'ils ne pensent qu'à ça, ils ne pensent qu'à leur poste, ils pensent qu'au poste de ministre, de député, pour nous faire la peau, parce qu'à chaque fois qu'ils y vont au gouvernement, ils nous font les poches, ils servent la soupe au patron.
Bravo.
Et donc, nous, on veut construire un parti à l'opposé de ces partis-là, pas des partis de politiciens qui pensent qu'aux élections et qu'à leur place. On veut construire un parti de travailleuses et de travailleurs, de chômeurs, de retraités, de militants qui n'ont pas à courir après les élections pour pouvoir vivre. On veut pas un parti de permanents, on veut un parti d'ouvriers, d'ingénieurs, d'aides ménagères, de femmes de ménage, un parti de travailleuses et de travailleurs. Et surtout, un parti qui dit la vérité. Qui dit la vérité aux travailleurs. Et dire la vérité, ça commence par dire que pas qu'il faut militer contre ces fausses solutions que nous présente le Rassemblement National, par exemple. Que c'est en tapant sur nos camarades étrangers, nos camarades immigrés, qu'on pourra s'en sortir. C'est faux. C'est pas comme ça qu'on pourra s'en sortir. C'est en tapant sur nos patrons, c'est en tapant sur les politiciens et nos patrons et sur les bourgeois qu'on pourra s'en sortir. Il faudra qu'on fasse un parti qui défende l'unité de la classe ouvrière, parce que sans unité, on sera capable de rien. Et puis plus loin que faire l'unité entre les travailleurs, c'est un parti qui dit que on par-delà les frontières, par-delà les religions, par-delà les nationalités, il faut que les travailleurs ils s'unissent entre eux. Notre devise, c'est pas liberté, égalité, fraternité. Notre devise, c'est travailleurs de tous les pays, unissons-nous. C'est se battre contre le nationalisme, contre le patriotisme qui génère de toute façon des guerres et qui génère la misère pour le monde du travail. Et puis la deuxième vérité qu'il faudrait que ce parti y défende, c'est lutter contre l'électoralisme. C'est-à-dire que c'est pas à travers les élections qu'on peut changer notre sort, à nous les travailleurs, parce que de toute façon, quand les uns et les autres, ils arrivent à Matignon, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils trouvent la feuille de route, ils trouvent les revendications du MEDEF, parce que c'est eux qui dirigent la société, parce qu'ils possèdent les usines, ils possèdent les banques, ils possèdent le pouvoir économique, et ils possèdent aussi le pouvoir politique. Que ça soit n'importe quelle couleur du Premier ministre, il exécutera les ordres du MEDEF, du grand patronat et de la bourgeoisie. On peut changer notre sort, non pas à travers les élections, mais à travers la lutte de classe. Et le parti qu'on veut construire, c'est un parti de combat. C'est un parti qui affiche les idées de la lutte de classe. C'est un parti pour faire la révolution, c'est-à-dire pour changer radicalement l'ensemble de la société et pour que les travailleurs dirigent la société. Parce que c'est nous qui la faisons tourner entièrement, c'est nous qui sommes à la base de la fabrication de la moindre richesse, du fonctionnement du moindre secteur économique. Sans nous, il n'y a strictement rien qui fonctionne. Eh bien, c'est aux travailleurs de diriger toute la société. Ça veut dire un parti qui se donne comme perspective, oui, non seulement de gérer les politiciens, mais de prendre les usines, de prendre les banques, de prendre le pouvoir politique et de réorganiser l'ensemble de la société. Voilà, c'est ça qu'on veut construire comme parti. Il ne pourra pas y avoir de solution, de révolution, sans qu'il y ait ce parti, un parti de combat, un état-major du côté de la classe ouvrière. Et c'est que, à cet effort, au prix de cet effort, qu'on pourra y arriver. Bon. Quand tu disais sur... Qu'on était un peu schématique, il y a d'un côté la bourgeoisie, puis de l'autre côté le reste, oui. Oui, on est schématique, on est clair. On est clair dans le discours, et on est clair surtout dans la réalité. C'est que la réalité, elle est faite de cette manière-là. C'est que oui, on est convaincu, parce qu'on est communiste et marxiste, on est convaincu, parce que c'est la réalité, que la société est divisée en deux classes sociales. Il y a d'un côté ceux qui dirigent, ceux qui s'enrichissent, la grande bourgeoisie, et puis il y a de l'autre côté l'ensemble, le reste de la population, ce qu'on appelle dans notre langage le camp des travailleurs, la classe ouvrière, c'est-à-dire pour résumer, tous ceux qui n'ont que leur salaire, leur allocation ou leur pension de retraite pour vivre. Quand tu comptes, ça fait beaucoup de monde. On est l'écrasante majorité de la population. Et sans nous, il n'y a strictement rien du tout qui peut fonctionner. On l'a vu pendant le Covid, dans le confinement dur. On voit à la moindre grève, ben voilà, l'activité elle s'arrête parce que sans nous, il n'y a strictement rien qui peut fonctionner. Alors, tu dis, dans la gauche, il y a quand même des militants qui sont, qui sont sincères, qui sont honnêtes. Voilà. Oui, on en est conscient parce qu'on les fréquente aussi, on milite avec. Dans les syndicats ou dans les entreprises où on les rencontre dans nos activités militantes, on en a peut-être dans nos familles, on en a chez nos voisins, oui. Et quelle politique on a envers l'ensemble de ces militants ou même des électeurs de gauche, c'est de défendre nos idées. C'est justement d'expliquer qu'ils se font avoir. En votant Mélenchon, tu te fais avoir. En votant Parti Socialiste, tu te fais avoir. En votant Rassemblement National, tu te fais avoir. Parce que c'est l'illusion d'électoralisme. C'est les beaux discours quand ces gens-là, ils sont dans l'opposition. Moi, j'ai le souvenir, je pense que tout le monde l'a dans la tête, un certain François Hollande, qui a dit à un moment donné, alors que franchement, il soulevait pas l'enthousiasme général, c'est moins qu'on puisse dire, il a trouvé, c'est pas lui qui l'a trouvé, hein, c'est un communicant, un mec qui est payé très cher pour lui sauver la mise. Il a trouvé, mon ennemi c'est la finance. C'est génial ça, mon ennemi c'est la finance. C'est extraordinaire. Du coup, puis en plus ça sonne bien à l'oreille, quand t'es convaincu que les financiers c'est l'ennemi, quand t'es convaincu que les capitalistes c'est l'ennemi, en gros les riches c'est l'ennemi, le gars il se présente, moi je vais être président de la République et moi mon ennemi c'est la finance. C'est génial. Voilà, bon, c'est un menteur. C'est un menteur parce que c'est un politicien. C'est un politicien qui est du côté de la bourgeoisie, qui est du côté des grands patrons. Et puis, vous avez un Mélenchon, je me souviens de Mélenchon, il y a un présidentiel de 2022, lui, il y allait beaucoup plus cash. Il disait, si vous votez pour moi, ça vous économisera des kilomètres de manifestation. Ça vous économisera de faire grève. Ça, c'est aussi dangereux que mon ennemi, c'est la finance dans la bouche d'un Hollande. C'est-à-dire que ces gens-là, ils nous vendent du rêve. C'est normal, hein, c'est leur taf, c'est leur boulot. Une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, qu'ils ont les rênes, comme on dit, ils servent la soupe des capitalistes. Et vous regardez dans l'histoire de la gauche au gouvernement, je ne veux pas la refaire parce que je serai trop long, mais à chaque fois, ça n'a pas manqué. Ils ont trahi ceux qui croyaient dans leurs promesses. Nous, ce qu'on dit aux électeurs de la gauche, et c'est pire pour les électeurs du Rassemblement National, c'est que vous croyez dans le sauveur suprême, vous croyez dans une gauche qui va vous protéger de la voracité des capitalistes. Vous allez croire dans une Marine Le Pen et dans un Jordan Bardella qui va vous sauver de la misère et du blocage des salaires et des licenciements. Nous, avec notre petite voix, avec d'autres petites forces, eh bien, on milite, et on milite en défendant d'autres idées. Et d'autres idées, c'est quoi? C'est les idées de la lutte de classe. Les idées de la lutte de classe, c'est pas faut faire grève, c'est la lutte, la lutte, la lutte. Bien sûr qu'il faudra lutter. Mais quand les travailleurs, ils ont pas envie de lutter, on peut toujours parler de faire grève et de lutter, on parle un peu dans le désert. Par contre, là où on parle pas dans le désert, c'est de dire, c'est qui le responsable du blocage de tes salaires? Ça fait 10 ans, 15 ans que t'as pas été augmenté, et là tu vas être augmenté que 30 euros parce que t'es au SMIC, et puis la CGT, elle crie victoire, parce qu'on a manifesté. C'est quoi? C'est des mensonges, ces trucs-là. C'est qui c'est qui est responsable de ton licenciement? Qui c'est qui est responsable de la fermeture de l'usine dans laquelle t'as donné toute ta santé, toute ta vie, et ton gamin, il a fait pareil? C'est les capitalistes, c'est les patrons. Pourquoi ils ferment les usines, les patrons? Allons jusqu'au bout du raisonnement. C'est parce qu'ils sont méchants? Bien sûr que non. C'est pas le problème de méchanceté ou de bonté. C'est pas un problème moral. C'est un problème économique. C'est pour que eux, que lui, le capitaliste, il puisse continuer à vivre de ses privilèges. Il est obligé, il est en guerre permanente avec son concurrent. Parce que le système, il est comme ça. C'est de montrer, d'expliquer à ceux qui veulent nous entendre, à ceux qui veulent discuter avec nous, de montrer que c'est pas le problème, c'est pas le politicien, c'est pas Macron le problème. Bien sûr que c'est un problème Macron, mais c'est pas le problème Macron. Macron, il fait partie du problème, et ce n'est pas le problème. Le problème, c'est le système capitaliste. C'est le capitalisme le problème. C'est le fait que on est en train de se tuer, on tombe dans la misère, la pauvreté, et on a des guerres qui vont exploser de tous les côtés, parce que eux, ils sont en guerre permanente entre eux. Et pour défendre leur peau, pour défendre leur richesse, pour défendre leurs privilèges, ils sont obligés de mettre la société à feu et à sang. Il n'y a pas un politicien qui pourra changer les choses. Parce que pour changer les choses, il faut ôter ce pouvoir de nuisance qu'a la bourgeoisie sur l'ensemble de la société. Il faut faire sauter cette dictature qu'ils imposent sur l'ensemble de la population. Et ça ne peut pas venir à partir d'un petit carton qu'on met dans une urne. C'est pas possible, ça. Nous, on dit que ça, c'est des menteurs. Ceux qui disent ça, c'est des menteurs. La vérité, c'est par la lutte qu'on pourra le faire. C'est par le combat social et en s'attaquant à leur pouvoir, c'est-à-dire en prenant leurs banques, leurs entreprises, en prenant le pouvoir politique. C'est en défendant nos idées qu'on peut... C'est ça, notre politique. Qu'on peut gagner, qu'on peut ouvrir les yeux, qu'on peut faire réfléchir les camarades autour de nous. Et ceux qui sont sincèrement de gauche ou qui pensent que Le Pen, elle peut changer leur sort parce qu'on les a tous essayés, il n'y a que elle qu'on n'a pas essayé. Bah, déjà, il y a les travailleurs qu'on n'a pas essayé au pouvoir. Il faudrait peut-être qu'on les essaye. Bon, mais ça, c'est un peu une facilité de dire ça. Mais de dire qu'il n'y aura pas de sauveur suprême, c'est pas vrai. Alors oui, le chemin qu'on propose, c'est un chemin de ronce. C'est des sacrifices. Ça veut dire qu'il faut se battre. Non seulement contre nos patrons, ça veut dire se battre contre l'État, contre le gouvernement, contre les flics, contre l'armée, contre la police, y compris même contre les dirigeants confédéraux, contre les politiciens. Lutte ouvrière, vous voulez vous battre contre tout le monde, quoi. Vous voyez? Mais parce que c'est vrai qu'ils paraissent extrêmement forts en face, mais ils ont un talon d'Achille. Dans cette forteresse, ce mur de l'Atlantique qui pense représenter, ils ont un talon d'Achille, c'est nous, c'est les travailleurs. C'est que sans nous, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et que... Au moment où la colère, elle va exploser, au moment où la détermination des camarades, des travailleurs, elle sera là pour changer, pour se faire respecter, pour changer les choses, pour inverser le rapport de force, eh bien, il faudra qu'il y ait une force politique dans les entreprises, dans les ateliers, dans les banques, dans les bureaux, dans les quartiers, dans toutes les familles, qu'il y ait une force politique qui dise... Ben, il faut aller le plus loin possible. Ça veut dire ne pas s'arrêter à mi-chemin, mais ça veut dire que si on veut vraiment se libérer, il faudra foutre en l'air toute la société et puis leur prendre tout et rien leur laisser. Il faudra qu'il y ait un parti qui défende cette perspective-là et qui défende cette politique. Je voulais te répondre sur le SMIC à 1600 euros sur le programme du Front Populaire. Non, le programme du nouveau Front Populaire, il n'est pas radical, il est extrêmement mou. Et même quand on regarde, à chaque fois que la gauche elle se présente aux élections année après année, son programme il est de plus en plus mou, il est de plus en moins radical. Comparer le programme du nouveau Front Populaire à celui de François Mitterrand de 81, vous allez voir. Vous allez dire, mais c'est un bolchevique Mitterrand. À l'époque, c'est pas possible. C'est ça, c'est qu'ils veulent, ils baissent la barre. Alors, si on pensait que Lucie Castel, allait imposer au patronat le SMIC immédiatement à 1600 euros et puis l'abrogation de la retraite à 64 ans. Mais là, enfin, si tu penses ça, camarade, tu trompes très lourdement. Alors voilà, moi je te le dis, tu trompes très lourdement. D'ailleurs, elle-même, elle disait, bon, le SMIC à 1600 euros, en fait, c'est faut le voir plus comme un horizon. L'horizon, c'est plus tu marches vers l'horizon, puis s'éloigne. C'est une mauvaise image qu'elle a donnée, mais c'était en fait une piste de discussion, un départ de discussion. Et on parle de 1600 euros net. Comment on peut vivre avec 1600 euros net? Voilà, c'est pas possible. Non, c'est des vendeurs de rêves, c'est des vendeurs d'illusions. Et on le paye à chaque fois très cher au niveau de la gauche quand elle passe au gouvernement. On pourrait discuter de la raison de la montée du Rassemblement National, mais le vrai carburant, les vrais responsables, les seuls responsables de la montée électorale du Rassemblement National, ça a été les participations de la gauche au gouvernement, parce qu'ils ont trahi, ils ont piétiné leurs promesses, ils ont servi la soupe au patron. Et maintenant, on le paye cash avec un Rassemblement National qui, demain, sera sans doute à Matignon, voire à la présidence de la République. Après, du coup, comment se bouger? Du coup, la suite logique, c'est comment se bouger? Comment faire que, autour de nous, les camarades, les travailleurs, ils se mettent en grève, ils luttent, etc. Ça, je ne veux pas dire que c'est notre grand malheur, mais on n'a pas cette force, on n'a pas cette capacité, on n'a pas de baguette magique, parce que les travailleurs, ça ne fonctionne pas comme ça. On n'a pas cette force de dire aux travailleurs, il faut se mettre en grève, il faut se révolter, il faut faire la révolution. C'est du coup, quand les travailleurs, ils n'ont pas envie, parce qu'ils ne s'y sentent pas, ils n'ont pas confiance en eux, ils n'ont pas confiance dans leur force politique, dans leur force collective, ils n'ont pas confiance, ils n'y croient pas qu'on peut battre les patrons, ils n'y croient pas. Ils pensent aujourd'hui, les travailleurs, que les patrons sont beaucoup plus forts qu'eux. Bon. Mais nous, parce qu'on est communistes, on est convaincus qu'à un moment donné ou à un autre, les travailleurs, ils se révoltent, malgré le fait qu'aujourd'hui, ils pensent ça, demain, ils vont se révolter. Ça va devenir des lions. C'est eux qui seront aux premières loges. C'est long, je suis d'accord avec toi, j'ai 56 balais, ça fait 40 ans pratiquement que j'attends ça. Et beaucoup, enfin tous, on est impatients de connaître ces moments-là. Et quand on a connu un tant soit peu des grèves, dans sa vie, on sait que ça existe et on sait que ça part très vite. Et des fois, ça part sur un rien. J'ai un peu l'habitude à chaque fois de donner l'exemple du mouvement des Gilets jaunes qui a été une explosion de colère, qui a été un mouvement populaire. Souvenez-vous, les camarades, c'est parti de bon, bah, t'étais Gilets jaunes. Mais oui, parce que c'est un mouvement populaire, il y en a forcément dans la salle, c'est évident. Vous êtes parti sur quoi au démarrage du démarrage? Parce qu'un certain Emmanuel Macron a voulu augmenter de quelques pourcentages la taxe sur le gazole. Oh, il y avait bien d'autres choses sur quoi se révolter avant quand même. Eh bien, les travailleurs ont décidé de se révolter là-dessus. Les travailleurs, c'est imprévisible. C'est ça qui fait aussi leur force. C'est que c'est imprévisible. Et que quand ils sont unis, déterminés, organisés et conscients de leurs intérêts, ils sont capables de très grandes choses. Ils sont capables de tout. Ils sont capables du meilleur. Nos patrons sont capables du pire. Nos travailleurs, ils sont capables du meilleur. Et le meilleur, eh ben, c'est de tout renverser. Tant qu'ils n'ont pas envie de se battre, eh ben, il faut qu'on défende nos idées. C'est quoi nos idées? Eh ben, c'est d'expliquer inlassablement que les vrais responsables de la société, de nos misères, de nos malheurs, ce sont les capitalistes. Et que justement, il faut laisser tomber les illusions dans le vote, les illusions dans les élections. Que les élections, ça peut permettre que de se compter et de défendre des idées. C'est tout. C'est extrêmement limité. Et puis quand il y a des élus, eh bien de pousser des coups de gueule, de prendre des positions, mais c'est tout ce que ça peut servir. Par contre, la lutte de classe, c'est les idées qui peuvent changer le monde à partir du moment où les travailleurs ils s'en emparent. Et bien, notre boulot, c'est d'être suffisamment nombreux dans les entreprises, dans les quartiers, partout, pour défendre ces idées-là. Parce que c'est les idées qui seront les seules capables de faire en sorte que les travailleurs, ils mènent leur combat jusqu'à la victoire. Et puis, pour répondre aux camarades du NPAR, Oui, tu dis que bah, tu reconnais, c'est normal, c'est pas une critique. On a des divergences entre nos deux organisations. Elles sont suffisamment importantes pour qu'on puisse pas se retrouver aujourd'hui dans la même maison. Ça ne veut pas dire que demain on sera pas dans ce fameux parti dans lequel, enfin, pour lequel on milite, on passe notre temps à militer. Mais moi, je milite, je travaille dans une usine à Poissy, à Stellantis. Il y a un camarade du NPAR, on discute tous les jours, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais on milite ensemble, on discute, et puis c'est ça être camarade. Voilà, et on est suffisamment en divergence sur un certain nombre de points pour vivre séparément dans des maisons qui soient séparées. Ça ne veut pas dire qu'on ne se retrouve pas dans des manifestations, on ne se retrouve pas dans des combats, même dans des combats électoraux du même côté. Et c'est comme ça. Après, chacun a sa manière pour construire ce fameux parti révolutionnaire. Militons, défendons nos idées, faisons nos preuves. Et puis, de toute façon, je suis convaincu pour que tous ceux qui soient honnêtes et sincères, on se retrouvera de toute façon à un moment donné tous ensemble dans ce parti. Lutte ouvrière, plus ouvert avec les personnes qui veulent changer les choses. Mais je ne sais pas ce que tu entends par plus ouvert, parce que, excuse-moi, mais t'es là-bas, plus ouvert, on est ouvert à tous ceux qui veulent sincèrement discuter comment on peut changer les choses. Parce qu'après, il y a ce qu'on y met derrière. Comment on peut changer les choses, j'imagine, du point de vue des travailleurs, pour changer la condition des travailleurs. Et peut-être que tu as un petit peu dans le coin de la tête, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des alliances? C'est ce que disait Gilbert. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des alliances à se mettre ensemble, soit avec le Parti communiste, ou soit avec la LFI, ou voilà, qui ont un langage parfois radical, mais pas tout le temps. Quand même pas tout le temps, hein. Faut reconnaître que Roussel, il dérape assez souvent et de plus en plus souvent quand même. Et pourquoi on ne serait pas ensemble, en gros? Bon, et là, c'est vrai que là, il y a une frontière, que l'on met, c'est que on veut pas faire des alliances avec des partis dont on sait, dont ils ont trouvé, par leur histoire, par leur passé, mais aussi par le présent, par les déclarations qu'ils font, par les actes qu'ils font, que de toute façon, quand ils vont arriver au pouvoir, ils tourneront le dos à leurs promesses et ils serviront d'une manière ou d'une autre la soupe aux capitalistes. Je parlais un tout petit peu du Parti communiste, mais c'est vrai que je vais parler de l'épisode de la gauche plurielle, là où justement toute la gauche était réunie au gouvernement. Bon, nous, on n'était pas dedans, évidemment, on n'est pas de la gauche, mais on est à part, on est communiste révolutionnaire. Mais il y avait toute la gauche, c'était la gauche plurielle. Toute la pluralité de la gauche était représentée au gouvernement. Et puis on a vu ce que ça a donné. Un gouvernement qui, avec un Premier ministre comme Jospin, qui a fait une telle politique pour les patrons, je ne dis pas une politique de droite, hein, parce que ça ne veut rien dire une politique de gauche, une politique de droite, c'est une politique pour les patrons. Ce n'est pas une politique pour les travailleurs. Ils ont fait tellement une politique, ils sont tellement vautrés à servir la soupe à ses patrons, que l'électorat de gauche n'a pas été voté Front National, Jean-Marie Le Pen à l'époque, si vous vous souvenez. L'électorat de gauche, il s'est abstenu. Il s'est abstenu tellement massivement que Jospin n'a pas passé la barre du premier tour. Et on s'est retrouvé avec le vieux Le Pen face à Chirac. Et dans ce gouvernement Jospin, il y avait des ministres communistes, notamment au transport. Un certain Jean-Claude Guessot, membre de la direction du Parti communiste français. Et je me souviens, parce que je suis de Paris, je suis de l'Île-de-France, il y a l'aéroport de Roissy, il y a Air France là-bas, et c'est lui qui a privatisé l'entreprise nationalisée Air France, qui l'a vendue au privé. Et il en était fier de ça. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer que des ministres communistes, ils ont vendu leurs promesses Ils ont piétiné leurs promesses, ils ont servi la soupe au capitalisme. Et aujourd'hui, le Parti communiste, il n'a pas changé. Au contraire, il s'est même droitisé, on va dire. Droitisé. Et le discours de discours, j'en veux pas à Roussel, mais la politique qu'il défend, mais tout comme la politique de Mélenchon, c'est une politique, votez pour nous, et on fera le reste. On vous défendra. La vie sera moins dure avec nous au pouvoir, avec nous au gouvernement. Et ça, c'est faux, on l'a payé cher, on le paye encore aujourd'hui extrêmement cher. Je ne vais pas refaire l'histoire de la gauche au gouvernement, mais souvenez-vous de Hollande, Premier ministre Valls, la loi El Khomri, les premières manifestations qui ont été interdites, c'est la gauche, c'est pas Macron, c'est pas la droite, c'est pas l'extrême droite, c'est la gauche qui les a interdites. On a eu les CRS, les premières NAS, cette politique, etc., de gérer les manifestations, c'est la gauche, c'est Valls, c'est Cazeneuve, c'est ces gars-là, c'est ces gens-là qui nous ont détruit nos droits, qui ont servi, qui ont ouvert un boulevard au patron, vraiment, à tel point que Hollande, d'ailleurs, il l'avait senti, il en était conscient, pas fou. Il ne s'était pas représenté pour un deuxième mandat. Il savait qu'il allait être balayé. Et à chaque fois que la gauche, elle a été au pouvoir, ça a été ça. Ça a été voter pour nous et on fera le reste. Et Mélenchon, il fait exactement pareil. Ruffin, aujourd'hui, Ruffin, il n'est plus en odeur de sainteté dans l'électorat de gauche. Voilà, il a trahi une fois, deux fois, il retourne sa veste quatre fois. Bon, ça fait pas sérieux, le gars. Mais avant qu'il fasse, qu'on voit un peu son vrai visage, il passait bien, Ruffin, François Ruffin, auprès des camarades de travail. C'est un gars qui avait la tchatch, il dénonçait des bonnes choses, etc. Il était un peu électron libre, il plaisait bien. Bon, bah, on voit ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ces gens-là, ces politiciens, vous les mettez au gouvernement, mais ils appliqueront la loi patronale, ils appliqueront les revendications du BNF, parce que sinon ils sautent. Pourquoi ils sautent? Parce que c'est pas eux qui ont le pouvoir, c'est pas l'Assemblée nationale qui a le pouvoir. Ce sont les représentants des actionnaires qui sont dans les conseils d'administration des plus grandes entreprises de ce pays qui ont le pouvoir de vie ou de mort sur la population, sur les travailleurs que nous sommes, et sur les gouvernements, sur les politiciens, c'est eux qui font la loi. Alors, que ça soit la gauche, puis après la droite, puis après Macron, ni gauche, ni droite, finalement il y a un peu plus de droite que de gauche, et puis demain on aura le Rassemblement National, oui, c'est à chaque fois, ça va de plus en plus vers la droite, où les réactionnaires, ils ont le vent dans les voiles, et ils peuvent se permettre de dire les pires saloperies, mais ils peuvent faire pire que ça. Ils peuvent, demain, ça sera encore pire, parce qu'ils vont, se sentir forts. La seule chose qu'ils peuvent arrêter, qui peuvent les arrêter, la seule chose qui peut changer le cours des choses, elles ne peuvent dire que d'en bas, cette solution. C'est les travailleurs, ça ne peut dire que d'en bas. Et ça ne peut pas passer par les urnes. Le Front Populaire, le camarade parlait du Front Populaire de 36. Léon Blum et le Front Populaire, ils ont gagné les élections parce qu'il y avait la grève, parce qu'il y avait cette poussée de contestation et de révolte qu'il y avait dans toutes les entreprises en France du côté de la classe ouvrière. Mais le Front Populaire, il n'avait même pas mis à son programme électoral les congés payés. Le Parti communiste n'était pas d'accord pour qu'on mette les congés payés dans le programme électoral du Front Populaire, parce que ça va effrayer les bourgeois, ce mur de l'argent. Et en fin de compte, il y a eu la grève, et c'est la grève qui a imposé tout ça. Mais la grève, elle s'est arrêtée à mi-chemin. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre, d'expliquer que pour que la grève, elle aille jusqu'au bout de ses possibilités, pour que les travailleurs, ils aillent jusqu'au bout de leur force, eh bien, il faudra qu'il y ait une force politique dans les entreprises, dans les ateliers, au milieu des gars, entre les femmes et les hommes, entre les travailleuses et les travailleurs. Là, à côté de l'établi, en face de la machine, sur la chaîne, il faut que cette force politique, elle soit là, en chair et en os, et qu'elle dise, eh bien, nous, on propose de continuer. Non, on ne va pas rentrer au boulot. Non, on ne va pas leur rendre les clés de l'usine. Et pourquoi on ne ferait pas tourner les usines pour nous, puisqu'on les a, on a la clé, et ça poserait d'autres problèmes. Il n'y a pas eu cette force politique en juin 36. Et le malheur, c'est que 3 ans plus tard, Eh bien, parce qu'il n'y a pas eu cette force politique, parce que cette grève, elle s'est arrêtée à mi-chemin. 3 ans plus tard, les mêmes qui occupaient les usines, ils se retrouvaient avec un treillis sur le dos, le flingue entre les mains, et puis c'était le démarrage de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, on y est dans ces situations-là, où autour de nous, ces forces de danger, ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Ukraine, mais il y aura d'autres foyers, il y aura d'autres guerres qui vont exploser. Parce que les bourgeois, ils ne fonctionnent que comme ça. Quand ils n'arrivent plus à faire la guerre entre eux, une guerre économique, simplement en fermant les usines, quand ils n'y arrivent plus à faire la guerre de cette manière-là à leurs concurrents, à leurs autres capitalistes, ils y vont, ils déclarent, ils fomentent des guerres. Les guerres, elles s'exposent pour défendre des intérêts économiques. C'est pas entre la démocratie et la dictature, ça c'est du flanc, c'est du baratin. Et on y est aujourd'hui dans cette situation où peut-être que demain, il y aura d'autres guerres qui vont exploser sur d'autres continents, voire peut-être encore en Europe. Et comment on peut s'en sortir? C'est pas avec un gouvernement de gauche, quoi. C'est pas avec une Lucie Castex qu'on va s'en sortir. Ça, c'est... Donc, nous, on veut bien discuter. On est hyper ouvert. On ne peut pas être plus ouvert que ça à discuter de quelle manière on change le monde. Mais pas par les élections. Pas en faisant une alliance électorale. Ça veut dire qu'on retourne dans les mêmes mensonges et les mêmes illusions. Et justement, il faut les combattre, ces illusions électorales. Et pour ça, par contre, là où on est convaincu, c'est que de toute façon, parce qu'on est communiste, parce qu'on est marxiste, on est convaincu, mais dur comme fer. Ça, c'est quelque chose qui changera jamais à lutte ouvrière. Ça existera toujours. Cette conviction inébranlable qu'à un moment donné ou un autre, la classe ouvrière, elle va se révolter. Elle va se mettre en colère. Elle sera capable de changer le monde. Ça coule dans l'autre sens. C'est pas possible de nous l'enlever. Tu comprends? Et c'est cette conviction qui nous fait militer. C'est cette conviction qui nous fait voir le monde avec optimisme. On est entouré de guerre, on est dans une crise économique, les autres ils s'en foutent plein les poches, on est en train de crever en bas, ils nous demandent en plus de payer des impôts et puis de supprimer des postes de travailleurs dans les services publics, les retraités ils vont encore crever, et bien on est optimiste. On est optimiste parce qu'on sait qu'à un moment donné ou un autre ça va exploser. Mais là les camarades, justement on milite pour ces moments où ça explose. Pour que quand les autres, les Mélenchon et compagnie vont nous dire, une fois qu'on aura fait 2 semaines, 3 semaines de grève, qu'on aura foutu la trouille aux bourgeois, à tous les politiciens, à tous les flics, ils vont nous dire, bon ben là on a suffisamment gagné, si on continue on va tout perdre, il faut reprendre le boulot. Eh bien non, si on en est encore capable, si on est encore déterminé, si on a encore du jus comme on dit, eh bien on continue. Et on continue en leur imposant encore plus de revendications, en leur imposant même notre nez dans les comptes de l'entreprise. Pourquoi c'est le patron qui décide de l'embauche et du licenciement? Pourquoi c'est pas nous les travailleurs qui décidons pas de l'embauche? Parce que c'est nous qui travaillons, c'est nous qui mourons sur l'échelle. Pourquoi nous on n'a pas notre mot à dire sur l'embauche? Pourquoi c'est toujours les patrons qui décident de tout? Eh bien ça, il faut que ça change. Voilà, une force politique qui défend une perspective, qui vaille le coup de se défoncer, qui vaille le coup de faire des sacrifices. Parce qu'il n'y a que comme ça que ça pourra changer. J'ai oublié de répondre à la camarade. Peut-être qu'on se trompe quand on parle de consommation ou de surconsommation, peut-être qu'on se trompe de la manière dont on pose le problème. Il y a bien des choses dans la société capitaliste qui tournent par rond. On marche sur la tête sur tout. On marche sur la tête sur tout. On produit des fois beaucoup plus d'une manière complètement folle, complètement dingue, qui détruit la planète, qui détruit les hommes, et des choses qui peuvent sembler inutiles ou superficielles. Des yachts de luxe, peut-être qu'on en produit un peu trop. Des voitures de luxe, Ferrari et compagnie, peut-être qu'on en produit un peu trop. Bon, mais si on regarde au niveau de la consommation, donc ça sera à régler. Je suis bien d'accord. Mais moi, je veux bien boycotter l'achat des yachts de luxe et des Ferrari, mais je ne suis pas sûr que ça pèse grand-chose, si tu veux. Plus sérieusement, comment dire? Il faut voir que dans la société, y compris dans un pays riche comme la France, il y a peut-être, je crois, 12% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à s'acheter de quoi manger convenablement tous les jours, qui n'arrivent pas à se soigner convenablement, qui n'arrivent pas à envoyer leurs gamins à l'école, etc. Enfin, on pourrait multiplier les exemples dans un pays riche comme la France. Si on regarde ce qui se passe à travers le monde, dans les pays du tiers-monde, dans les pays pauvres, c'est pire. C'est pire, c'est que les peuples, la population, n'arrive pas tout simplement, crève de faim, n'arrive même pas à avoir de l'eau potable, n'arrive pas à se loger, n'arrive pas à avoir des écoles, arrive à rien du tout. Ils sont en train de crever. Et donc, si on parle de consommation, moi, je militerais plutôt pour que d'abord, tout le monde puisse avoir à manger convenablement, tout le monde puisse se loger, puisse se vêtir, puisse se soigner, puisse envoyer ses gamins à l'école. Et ça, sur toute la surface de la planète, dans tous les pays riches. Par contre, militer contre le pouvoir des capitalistes, le pouvoir de nuisance des capitalistes, par l'intermédiaire de la consommation, c'est ce que je pense. Ça ne peut pas marcher dans le sens où tu seras obligé d'acheter toujours à manger, tu seras obligé d'acheter ta voiture pour aller au boulot parce qu'il n'y a pas de transport en commun, tu seras toujours obligé d'acheter des vêtements, tu seras obligé de consommer un minimum. Et eux, ça leur fait pas mal, ça. Ça leur fait pas mal. Là où ça peut leur faire mal, et là où, j'en suis convaincu, ça leur fera mal, c'est si on touche à la source du profit. Où est-ce que ça se fabrique, le profit ? Leur richesse, elle vient d'où ? Elle vient du travail. Elle vient de notre travail. Elle vient du travail de l'ensemble de la classe ouvrière. C'est nous qui fabriquons la plus-value. C'est nous qui fabriquons ces milliards de richesses dont ils ne savent pas quoi en faire, jouer à la spéculation mondiale. C'est s'attaquer aux sources du mal. Source du mal, c'est l'organisation économique de la société, le fait que ces empires industriels, ces empires financiers appartiennent à des femmes et des hommes, des bourgeois, classe sociale, qui parasitent l'ensemble de la société et qui la fait fonctionner pour son propre profit en mettant à feu et à sang le reste de la planète. Eh bien, il faut que c'est là où se fabriquent les richesses dont on a besoin. Le vêtement, les vêtements, la nourriture, la voiture, etc. Il faudrait que ça soit nous, les travailleurs, la collectivité, qu'on puisse faire fonctionner ces entreprises en fonction des besoins, et non plus en surproduisant je ne sais pas combien de voitures qui finissent dans des parkings à pourrir sur les parkings dans les ports du Havre, à fabriquer des vêtements dont on a besoin, à fabriquer de la nourriture dont on a besoin. Et si c'est nous qui décidons tout, on décidera comment on le fait, de quelle manière on produit, et on fera en sorte de faire le moins mal à la planète et que ça se fasse dans de bonnes conditions pour les femmes et les hommes. Mais pour ça, il faut qu'on ait le pouvoir sur les entreprises, il faut que les travailleurs aient le pouvoir sur les entreprises, qu'on puisse rationaliser toutes ces productions et même qu'on puisse la planifier, non pas à l'échelle d'un pays, parce que maintenant c'est mondialisé, et bien je dirais tant mieux c'est mondialisé, il faudrait la planifier à l'échelle mondiale. Qu'on ne double pas, on ne triple pas les productions, parce que les uns et les autres, ils se font la guerre entre eux. Mais qu'on rationalise, qu'on planifie l'ensemble de la production. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra vivre mieux, et qu'on pourra s'en sortir au niveau de la planète. Mais faire des boycotts sur la consommation, on sera obligé de consommer au minimum de toute façon. Et ça, on peut le raisonner dans un pays riche comme le nôtre. Quand tu es dans un pays pauvre, tu voudrais bien consommer un peu plus pour vivre et puis pour t'en sortir. Mais il y a qu'en s'attaquant aux capitalistes, à la propriété privée des moyens de production, qu'on pourra régler le problème de l'ensemble de la population, de la surconsommation, de la surproduction et de consommer n'importe comment et de produire n'importe comment. Le micro à 18h30, on est pile poil dans les clous, on va pas se faire engueuler, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, pour conclure, si tu veux, ton exemple, il vaut ce qu'il vaut. Mais regarde ce qui se passe au Liban, regarde ce qui se passe à Gaza, regarde ce qui se passe en Ukraine. Regarde, là, il y a des... Quand on va connaître, si jamais on connaît un krach boursier mondial, une crise financière mondiale, un krach boursier mondial, où les bourgeois, la famille Peugeot, Hermès, Arnault et compagnie, ils vont commencer à perdre de l'argent. Pour l'instant, ils s'enrichissent, eux. Quand on va connaître le moment, dans une crise économique extrêmement grave, où ils vont perdre leur fortune, qui vont se dilapider, les usines vont fermer par rapport à ce qu'on connaît là, mais c'est rien du tout. Ça va être la désolation économique. Là, tu vas avoir la consommation qui va chuter, tu vas rien comprendre. Alors là, tu auras gagné. Plus personne ne pourra consommer quoi que ce soit. Parce qu'on sera au chômage, la production économique, elle sera même pas à zéro, elle sera à moins 10, elle sera à moins 50, et tout va s'écrouler. Parce que c'est ce qui nous pend au nez. Je ne dis pas que ça va arriver demain, mais c'est ce qui nous pend au nez. Cet été, il y a eu un mini-crack boursier dans les bourses asiatiques. Les experts économiques, qui ne sont pas des communistes, expliquaient, c'est peut-être les premiers soubresauts, les premiers signes d'un krach mondial plus important. Si jamais on connaît ce krach mondial, là, ça sera les années 30 aux États-Unis. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'était après la crise de 29. Voilà, c'était la misère et la pauvreté. Et là, il n'y aura plus de consommation. Le problème, il sera réglé. Donc, ce n'est pas ça le problème. Ce que disait la camarade, elle a raison. Il faut se on peut chercher, et je comprends, hein. Je comprends qu'on cherche des chemins de traverse, parce que ça paraît tellement dingue ce qu'on propose, qu'on cherche des moyens de tergiverser, on pourrait peut-être pas changer les choses comme ça. Non, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'évasion possible. Il n'y a pas de plan B. Le seul plan A qui vaut, il n'y a pas de plan B, c'est de foutre en l'air ce système, de foutre en l'air cette société, et de leur prendre tout aux riches. De leur prendre tout et de faire tourner en fonction des besoins de l'ensemble de l'humanité. Alors, encore une fois, je le redis, ça paraît très loin, ça paraît très très loin, sauf que ça peut changer très très vite. Parce qu'une explosion de colère, ce qui advient avec les salariés, avec les travailleurs, c'est que ça ne prévient pas. Ils sont imprévisibles. Et ça peut exploser du jour au lendemain. Notre problème aujourd'hui, dont on doit vraiment s'attacher, c'est de construire une force politique suffisamment forte pour que quand ça explosera, il faudra que les travailleurs soient organisés, conscients de leurs intérêts et qu'ils aient une politique efficace pour aller le plus loin possible, jusqu'où leurs forces leur porteront, pour les faire reculer le plus loin possible, marquer des points, marquer des avancées, et puis tenir cette position de force qu'on aura quand il y aura des grèves générales, quand il y aura des révoltes. Il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en débarrasser de cette force de nuisance qu'est la classe bourgeoise. Mais pour ça, il faut être optimiste, et ça tombe bien, on y est, et puis on est déterminé.